La vie de Marianne, feuilleton 3, quatrième partie. Je ris en vous envoyant ce paquet, madame. Les différentes parties de l'histoire de Marianne se gifent ordinairement de fort loin. J'ai coutume de vous les faire attendre très longtemps. Et il n'y a que 2 mois que vous avez reçu la troisième. Il me semble que je vous entends dire « Mais encore une troisième partie ?» A-t-elle oublié qu'elle me l'a envoyée? Non, madame, non. C'est que c'est la quatrième. Rien que cela, oui, la quatrième. Voilà bien étonnée, n'est-ce pas? Voyez si je ne gagne pas à avoir été paresseuse. Peut-être qu'en ce moment, vous me savez bon gré de ma diligence, et vous ne me la remarqueriez pas si j'avais coutume d'en avoir. À quelque chose, nos défauts sont bons. On voudrait bien que nous n'éludions pas, mais on les supporte et on nous trouve plus aimables de nous en corriger quelquefois, que nous ne le paraîtrions avec les qualités contraires. Vous souvenez-vous de M. de... C'était un grondeur éternel et d'une physionomie à l'avenant. Avait-il un quart d'heure de bonne humeur, on l'aimait plus dans ce quart d'heure qu'on ne l'eût aimé pendant toute une année, s'il avait toujours été agréable. De mémoire d'homme, on n'avait plus tant de grâce à personne. Mais commençons cette quatrième partie. Peut-être avez-vous besoin de la lire pour la croire. Et avant que de continuer mon récit, venons-en au portrait de ma bienfaitrice que je vous ai promis avec celui de la dame qu'elle a amenée et à qui, dans les suites, j'ai eu des obligations dignes d'une reconnaissance éternelle. Quand je dis que je vais vous faire le portrait de ces deux dames, j'entends que je vous en donnerai quelques traits. On ne saurait rendre en entier ce que sont les personnes, du moins cela ne me serait pas possible. Je connais bien mieux les gens avec qui je vis que je ne les définirais. Il y a des choses en eux que je ne saisis point assez pour les dire et que je n'aperçois que pour moi et non pas pour les autres. Ou si je les disais, je le dirais mal. Ce sont des objets de sentiments si compliqués, si d'une netteté si délicate, qui se brouillent dès que ma réflexion s'en mêle. Je ne sais plus par où les prendre pour les exprimer de sorte qu'ils sont en moi, et non pas à moi. N'êtes-vous pas de même? Il me semble que mon âme, en 1000 occasions, en sait plus qu'elle n'en peut dire. Et qu'elle a un esprit à part, qui est bien supérieur à l'esprit que j'ai d'ordinaire. Je crois aussi que les hommes sont bien au-dessus de tous les livres qu'ils font. Mais cette pensée me mènerait trop loin. Revenons à nos dames et à leurs portraits. En voici un qui sera un peu étendu, du moins j'en ai peur, et vous en avertis afin que vous choisissiez ou de le passer ou de le lire. Ma bienfaitrice, que je ne vous ai pas encore nommée, s'appelait Madame de Mira. Elle pouvait avoir 50 ans. Quoiqu'elle ait été belle femme, elle avait quelque chose de si bon et de si raisonnable dans la physionomie que cela avait pu nuire à ses charmes et les empêcher d'être aussi piquants qu'ils auraient dû l'être. Quand on a l'air si bon, on en paraît moins belle. Un air de franchise et de bonté si dominant et tout à fait contraire à la coquetterie. Il ne fait songer qu'au bon caractère d'une femme, mais non pas à ses grâces. Il rend la belle personne plus estimable, mais son visage plus indifférent, de sorte qu'on est plus content d'être avec elle que curieux de la regarder. Et voilà, je pense, comme on avait été avec Madame de Miran. On ne prenait pas garde qu'elle était belle femme, mais seulement la meilleure femme du monde. Aussi, m'a-t-on dit, n'avait-elle guère fait d'amants, mais beaucoup d'amis, et même d'amis, ce que je n'ai pas de peine à croire, vu cette innocence d'intention qu'on voyait en elle, vu cette mine simple, consolante et paisible, qui devait rassurer l'amour-propre de ses compagnes et les faisait plus ressembler à une confidente qu'à une rivale. Les femmes ont le jugement sur là-dessus. Leur propre envie de plaire leur apprend tout ce que vaut un visage de femme. Qu'il soit beau ou laid, quel qu'il soit, il n'importe ce qu'il a de mérite. Fût-il imperceptible, elle l'y découvre et ne s'y fie pas. Mais il y a des beautés entre elles qu'elles ne craignent point. Elles sentent fort bien que ce sont des beautés sans conséquence, et apparemment que c'était ainsi qu'elles avaient jugé de Madame de Miran. Or, à cette physionomie plus louable que séduisante, à ses yeux qui demandaient plus d'amitié que d'amour, cette chère dame jouait une taille bien faite et qui aurait été galante si Madame de Miran l'avait voulu, mais qui, faute de cela, n'avait jamais que des mouvements naturels et nécessaires, et tels qu'il pouvait partir de l'âme du monde de la meilleure foi. Quant à l'esprit, oh, je crois qu'on n'en avait jamais songé à dire qu'elle l'en eût, mais qu'on n'avait jamais dit aussi qu'elle en manqua. C'était de ces esprits qui satisfont à tout sans se faire remarquer en rien, qui ne sont ni forts ni faibles, mais doux et sensés, qu'on ne critique ni qu'on ne loue, mais qu'on écoute. Fût-il question des choses les plus indifférentes, Madame du Miran ne pensait rien, ne disait rien qui ne se sentît de cette abondance de bonté qui faisait le fond de son caractère. Et n'allez pas croire que ce fût une bonté sotte, aveugle, de ces bontés d'une âme faible et pusillanime, et qui paraissent risibles même aux gens qui en profitent. Non, la sienne était une vertu. C'était le sentiment d'un cœur excellent. C'était cette bonté proprement dite qui tiendrait lieu de lumière, même aux personnes qui n'auraient pas d'esprit, et qui, parce qu'elle est vraie bonté, veut avec scrupule être juste et raisonnable et n'a plus envie de faire un bien dès qu'il en arriverait un mal. Je ne vous dirai pas même que Madame de Miran eut ce qu'on appelle de la noblesse d'âme. Ce serait aussi confondre les idées. La bonne qualité que je lui donne était quelque chose de plus simple, de plus aimable et de moins brillant. Souvent, ces gens qui ont l'âme si noble ne sont pas les meilleurs cœurs du monde. Ils s'entêtent trop de la gloire et du plaisir d'être généreux et négligent par là bien des petits devoirs. Ils aiment à être loués, et Madame de Miran ne songeait pas seulement à être louable. Jamais elle ne fut généreuse à cause qu'il était beaucoup de lettres, mais à cause que vous aviez besoin qu'elle le fût. Son but était de vous mettre en repos afin d'être aussi sur votre compte. Lui marquiez-vous beaucoup de reconnaissance, ce qui l'en flattait le plus, c'est que c'était signe que vous étiez content. Quand on remercie tant d'un service apparemment, qu'on se trouve bien de l'avoir reçu. Et voilà ce qu'elle aimait à penser de vous, de tout ce que vous lui disiez. Il n'y avait que votre joie qui la récompensait. Ah, j'oubliais une chose assez singulière, c'est que, quoiqu'elle ne se vantât jamais des belles actions qu'elle faisait, vous pouviez vous vanter des vôtres avec elle en toute sûreté, et sans craindre qu'elle y prît garde. Le plaisir de vous entendre dire que vous étiez bon ou que vous l'aviez été, lui fermait les yeux sur votre vanité ou lui persuadait qu'elle était fort légitime, aussi contribuait-elle à l'augmenter tant qu'elle pouvait. Oui, vous aviez raison de vous estimer, il n'y avait rien de plus juste et à peine pouviez-vous trouver autant de mérite qu'elle vous en trouvait elle-même. À l'égard de ceux qui s'estiment à propos de rien, qui sont glorieux de leur rang ou de leur richesse, gens insupportables et qui fâchent tout le monde, ils ne fâchaient point Madame de Miran. Elle ne les aimait pas, voilà tout, ou bien elle avait pour eux une antipathie froide, tranquille mais polie. Les médisants par Babil, je veux dire, ces gens à bons mots contre les autres, à qui pourtant ils n'en veulent point, la fatiguaient un peu davantage, parce que leurs défauts choquaient sa bonté naturelle, au lieu que les glorieux ne choquaient que sa raison et la simplicité de son caractère. Elle pardonnait au grand parleur et riait bonnement en elle-même de l'ennui qu'il lui donnait et dont il ne se doutait pas. Trouvait-elle des esprits bizarres, entêtés, qui n'entendaient pas raison? Elle prenait patience et n'en était pas moins leur amie. Eh bien, c'étaient d'honnêtes gens qui avaient leurs petits défauts. Chacun n'avait-il pas les siens? Et voilà qui était fini. Tout ce qui n'était que faute de jugement, que petitesse d'esprit, bagatelle que cela avec elle. Son bon cœur ne l'abandonnait pour personne, ni pour les menteurs qui lui faisaient pitié, ni pour les fripons qui la scandalisaient sans la rebuter, pas même pour les ingrats qu'elle ne comprenait pas. Elle ne se refroidissait que pour les âmes malignes. Elle aurait pourtant servi les personnes de cette espèce, mais à contre-cœur et sans goût. C'étaient là ces vrais méchants, les seuls qui étaient brouillés avec elle, et contre qui elle avait une rancune secrète et naturelle qui l'éloignait d'eux sans retour. Une coquette qui voulait plaire à tous les hommes était plus mal dans son esprit qu'une femme qu'on aurait aimé quelques-uns plus qu'il ne le fallait. C'est à son gré, il y avait moins de mal à s'égarer qu'à vouloir égarer les autres. Elle aimait mieux qu'on manquât de sagesse que de caractère et qu'on eût le cœur faible que l'esprit impertinent et corrompu. Madame de Mirand avait plus de vertu morale que de chrétienne, respectait plus les exercices de sa religion qu'elle n'y satisfaisait, honorait fort les vrais dévots sans songer à devenir dévote, aimait plus Dieu qu'elle ne le craignait, et concevait sa justice et sa bonté un peu à sa manière, et le tout avec plus de simplicité que de philosophie. C'était son cœur et non pas son esprit qui philosophait là-dessus. Telle était Madame de Mirand, oh, sur qui j'aurais encore bien les choses à dire, mais à la fin, je serais trop longue, et si par hasard, vous trouvez déjà que je l'ai été trop, songez que c'est ma bienfaitrice, et que je suis bien excusable de m'être un peu oublié dans le plaisir que j'ai eu de parler d'elle. Il nous revient encore un portrait, celui de la dame avec qui elle était, mais ne craignez rien. Je vous en fais grâce pour à présent. Et en vérité, je me l'épargne à moi-même, car je soupçonne qu'il ne sera pas court non plus, qu'il ne sera pas même aisé, et il est bon que nous reprenions toutes deux haleine. Je vous le dois pourtant, et vous l'aurez pour l'acquis de mon exactitude. Je vois d'ici où je le placerai dans cette quatrième partie, mais je vous assure que ce ne sera que dans les dernières pages, et peut-être ne serez-vous pas fâché de l'y trouver. Vous pouvez du moins vous attendre à du singulier. Vous venez de voir un excellent cœur, celui que j'ai encore à vous peindre le vaudra mieux et sera pourtant différent. À l'égard de l'esprit, ce sera toute la force de celui des hommes, mêlée avec toute la délicatesse de celui des femmes. Continuons mon récit. « Bonjour, ma fille, me dit Madame de Mirand en entrant dans le parloir. Voici une dame qui a voulu vous voir, parce que je lui ai dit du bien de vous et je serai ravi aussi qu'elle vous connaisse, afin qu'elle vous aime. » « Eh bien, madame, ajouta-t-elle en s'adressant à son amie, la voilà, comment la trouvez-vous? N'est-il pas vrai que ma fille est gentille? » Oh, « Non, madame, reprit cette amie d'un air caressant, non, non, elle n'est pas gentille. Ce n'est pas là ce qu'il faut dire, s'il vous plaît. Vous en parlez avec la modestie d'une mère. Pour moi, qui suis une étrangère, il m'est permis de dire franchement ce que j'en pense et ce qui en est. c'est qu'elle est charmante, et qu'en vérité je ne sache point de figure plus aimable, ni d'un air plus noble. Je baisse les yeux à un discours si flatteur, et je ne suis y répondre qu'en rougissant. On s'assit, la conversation s'engagea. Y a-t-il rien dans la physionomie de mademoiselle qui pronostique les infortunes qu'elle a essuyées? Dit madame d'Orsin, c'était le nom de la dame en question. Mais il faut tôt ou tard que chacun ait ses malheurs dans ce monde. Et voilà les siens passés, j'en suis sûr. Je le crois aussi, madame, répondis-je modestement. Puisque j'ai rencontré madame et qu'elle a la bonté de s'intéresser à moi, c'est un grand signe que mon bonheur commence. C'est de madame de Mirand dont je parlais, comme vous le voyez, et qui, avançant sa main à la grille pour me prendre la mienne, dont je ne pus lui passer que 3 ou 4 doigts, me dit « Oui, Marianne, je vous aime et vous le méritez bien. Soyez désormais sans inquiétude. Ce que j'ai fait pour vous n'est encore rien, n'en parlons point. Je vous ai appelé ma fille, et bien imaginez-vous que vous l'êtes, et que je vous aimerais autant que si vous l'étiez. » Cette réponse m'attendrit. Mes yeux se mouillèrent, je tâchais de lui baiser la main, tant elle ne put à son tour m'abandonner que quelques doigts. L'aimable enfant, s'écria là-dessus madame d'Orsin, savez-vous que je suis un peu jalouse de vous, madame, et qu'elle vous aime de si bonne grâce, que je prétends en être aimée aussi, moi. Faites comme il vous plaira, vous êtes sa mère, et je veux du moins être son amie. N'y consentez-vous pas, mademoiselle? Moi, madame, repartis-je, le respect m'empêche de dire que oui, je n'ose prendre cette liberté-là, mais si ce que vous me dites m'arrivait, ce serait encore aujourd'hui un des plus heureux jours de ma vie. Vous avez raison, ma fille, me dit madame de Mirand, et le plus grand service qu'on puisse vous rendre, c'est de prier madame de vous tenir parole et de vous accorder son amitié. Vous la lui promettez, madame, ajouta-t-elle en parlant à madame d'Orsin, qui, de l'air du monde le plus prévenant, dit sur le champ, mais je la lui donne, mais à condition qu'après vous, il n'y aura personne qu'elle aimera tant que moi. Ah non, 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 dit madame de Mirand, vous ne vous rendez pas justice, et moi je lui défends bien de mettre entre nous là-dessus la moindre différence, et j'ose vous répondre qu'elle m'obéira du reste. Je baissai encore les yeux en disant très sincèrement que j'étais confuse et charmée. Madame de Mirand regarda tout de suite sa montre. « Oh, il est plus tard que je ne croyais, dit-elle. Il faut que je m'en aille bientôt. Oh, je ne vous vois aujourd'hui qu'en passant, Marianne. J'ai beaucoup de visites à faire, d'ailleurs. Je me sens abattue et je veux rentrer de bonne heure chez moi. » Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai eu 1000 choses dans l'esprit qui m'en ont empêché. Mais en effet, madame, repris-je, j'ai cru voir un peu triste. Et cela était vrai. Et j'ai été inquiète. Est-ce que vous auriez du chagrin? Oui, reprit-elle. J'ai un fils qui est fort honnête homme, dont j'ai toujours été très contente et dont je ne le suis pas aujourd'hui. On veut le marier, il se présente un parti très avantageux pour lui. Il est question d'une fille riche, aimable, fille de condition dont les parents paraissent souhaiter que le mariage se fasse. Mon fils lui-même, il y a plus d'un mois, a consenti que des amis communs s'en mêlassent. Alors on l'a mené chez la jeune personne, il l'a vu plus d'une fois, et depuis quelques semaines, il néglige de conclure. Il semble qu'il ne s'en soucie plus, et sa conduite me désole, d'autant plus que c'est une espèce d'engagement que j'ai prise avec une famille considérable à qui je ne sais que dire pour excuser la tiédeur choquante qu'il montre aujourd'hui. Elle ne durera pas, je ne saurais le croire, reprit Madame d'Orsin. Mais je vous le répète encore, votre fils n'est point un étourdi. C'est un jeune homme qui a de l'esprit, de la raison, de l'honneur. Vous savez sa tendresse, ses égards et son respect pour vous, et je suis persuadé qu'il n'a rien à craindre. Il viendra demain dîner chez moi. Il m'écoute, laissez-moi faire. Je lui parlerai, car de dire que cette petite fille dont vous a parlé et qu'il a rencontré en revenant de la messe, l'air dégoûté du mariage en question, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui ne lui revient jamais dans l'esprit. En revenant de la messe, madame, dis-je alors un peu étonné à cause de la conformité que cette aventure avait avec la mienne. Vous vous souvenez que c'était au retour de l'église que j'avais rencontré Valleville, sans compter que le mot de « petite fille » était assez dans le vrai. « Oui, en revenant de la messe, me répondit Madame d'Ancin, ils en sortaient tous deux, il n'y a pas d'apparence qu'ils se soient vus depuis. » Et que sait-on? On l'a fait si joli que cela, madame, répondit Madame de Mirand. Et puis vous savez, quand elle fut partie, les mesures qu'il prit pour la connaître. Des mesures, autre motif pour moi d'écouter. Eh mon Dieu, madame, à quoi vous arrêtez-vous là? S'écria Madame d'Orsin. Elle est jolie, elle a bonheur, mais il y a le moyen de penser qu'une grisette lui ait tourné la tête. Car il n'est question que d'une grisette, ou tout au plus de la fille de quelque petit bourgeois, qui s'était mise dans ses beaux atours à cause du jour de fête. Un jour de fête? Oh, Seigneur, mais quelle date! Est-ce que ce serait moi? Dis-je encore en moi-même, toute tremblante, et n'osant plus faire de questions. Oh! Je vous demande, ajouta Madame d'Orsin, si une fille de quelque distinction va seule dans les rues, sans laquais et sans quelqu'un avec elle, comment on a trouvé celle-ci à ce qu'on vous a dit et qui plus est? C'est qu'elle se jugea à elle-même et qu'elle vit bien que votre fils ne lui convenait pas, puisque elle ne voulut ni qu'on la ramena, ni dire qui elle était, ni où elle demeurait. Aussi, quand on la supposerait si amoureux d'elle, où la retrouvera-t-il? Il a pris des mesures, dites-vous. Ces gens rapportent qu'il fit courir un laquais après le fiacre qui l'emmenait. Oh, que le cœur me battit ici! Est-ce qu'on peut suivre un fiacre? Et d'ailleurs, ce même laquais que vous avez interrogé, vous avez dit qu'il a eu beau courir après et qu'il l'avait perdu de vue. Ah bon, tant mieux, pensais-je ici. Ce n'est plus moi. Le laquais qui me suivit me vit descendre à ma porte. Bon, ce garçon vous trompe, continua Madame d'Orsin. Il est dans la confidence de son maître, dites-vous. Ah, cela se pourrait bien. C'est moi qui me le disais. Eh bien, soit je veux qu'il ait vu arrêter le fiacre, c'est la dame qui parle, et que votre fils ait su où demeure la petite fille. Mais qu'en concluez-vous? Qu'il s'est pris de belles passions pour elle, qu'il va lui sacrifier sa fortune et sa naissance, qu'il va oublier ce qu'il est, ce qu'il vous doit, ce qu'il se doit à lui-même, et qu'il ne veut plus ni aimer ni épouser qu'elle? En vérité, est-ce là votre fils? Le reconnaissez-vous à de pareilles extravagances? Et c'est à peine ce qu'on pourrait craindre d'un imbécile ou d'un écervelé reconnu pour tel. Oh, je veux croire que la fille lui a plu, mais de la façon dont lui devrait plaire une fille de cette sorte-là, à qui on n'attache point et qu'un homme de son âge et de sa condition tâche de connaître par goût de fantaisie et pour voir jusqu'où cela le mènera. C'est tout ce qu'il en peut être. Allez, soyez tranquille. Je vous garantis que nous le marierons, si nous n'avons que les charmes de la petite avec aventurière à combattre. Voilà quelque chose de bien redoutable. Petite aventurière, le terme était encore de mauvaise augure. Je ne partirai jamais, me dis-je. Cependant, si ces dames en étaient demeurées là, je n'aurais su affirmativement ni qu'espérer ni que craindre. Mais Madame de Mirand va éclaircir la chose. Je serais assez de votre avis, répondit-elle d'un air inquiet, si on ne disait pas que mon fils est triste et de méchante humeur, que depuis le jour de cette malheureuse aventure, et il est constant que je l'ai trouvé tout changé. Mon fils est naturellement gai, vous le savez, et je ne le vois plus que sombre, que distrait, que rêveur. Ses amis même s'en aperçoivent. Le chevalier, qu'il ne quittait point et avec qui il est si lié, le fatigue et l'importune, il lui fit dire hier qu'il n'y était pas. Ajoutez à cela les cours de ce même laquais dont je vous ai parlé, que mon fils dépêche 4 fois par jour, et avec qui, quand il revient, il a toujours de fort longs entretiens. Ce n'est pas là tout. J'oubliais de vous dire une chose, c'est que j'ai été ce matin parler au chirurgien qu'on alla chercher pour visiter le pied de la petite personne. Oh, pour le coup, me voici comme dans mon cadre. À l'article du pied, figurez-vous la pauvre petite orpheline anéantie. Je ne sais pas comment je pus respirer avec l'effroyable battement de ce cœur qui me prit. Oh, mais c'est donc moi, me dis-je. Il me sembla que je sortais de l'église, que je me voyais encore dans cette rue où je tombais avec ces maudits habits que Climal m'avait donnés, avec toutes ces parures qui me valaient le titre de grisette en ces beaux atours des jours de fête. Quelle situation pour moi, madame! Et ce que j'y sentais le plus humiliant et le plus fâcheux, c'est que cet air si noble et si distingué, que madame d'Orsay en entrant avait dit que j'avais, et que madame de Mirand me trouvait aussi, ne tenait à rien, dès qu'on me connaîtrait, m'appartenait-il de venir rompre un mariage tel que celui dont il était question? Oui, Marianne avait l'air d'une fille de condition, pourvu qu'elle n'eût point d'autre tort que d'être infortunée et que ses grâces n'eussent causé aucun désordre. Mais Marianne, aimée de Valville, Marianne, coupable du chagrin qu'il donnait à sa mère, pouvait fort bien redevenir grisette d'aventurière et petite fille dont on ne se soucierait plus, qui adinerait et qui était bien hardie d'oser toucher le cœur d'un honnête homme. Mais achevons d'écouter madame de Mirand, qui continue, à qui, dans la suite de son discours, il échappera quelques traits qui me ranimeront, et qui en est au chirurgien à qui elle alla parler. Et qui m'a dit, de bonne foi, continua-t-elle, que la jeune enfant était fort aimable, qu'elle avait l'air d'une fille de très bonne famille, et que mon fils, dans toutes ses façons, avait manqué à marquer un vrai respect pour elle. Et c'est ce respect qui m'inquiète. J'ai peine, quoi que vous disiez, à le concilier avec l'idée que j'ai d'une grisette. S'il l'aime et qu'il la respecte, il l'aime donc beaucoup. Il l'aime donc d'une manière qui sera dangereuse et qui peut le mener très loin. Vous concevez bien d'ailleurs que tout cela n'annonce pas une fille sans éducation et sans mérite. Et si mon fils a de certains sentiments pour elle, je le connais, oh, je n'en espère plus rien. Ce sera justement parce qu'il a des mœurs, de la raison et le caractère d'un honnête homme, qu'il n'y aura presque point de remède à ce misérable penchant qu'il aura surpris pour elle, s'il la croit indigne de sa tendresse et de son estime. Or, mettez-vous à la place de l'orpheline, et voyez, je vous prie, que de tristes considérations, à la fois doucement pourtant, il en jouait une qui était bien agréable. Avez-vous pris garde à cette mélancolie où, disait-on, Valville était tombé depuis le jour de notre connaissance? Avez-vous remarqué que ce respect que le chirurgien disait qu'il avait eu pour moi? Vraiment, mon cœur tout troublé, tout effrayé qu'il avait été d'abord, avait bien recueilli ces petits traits-là. Et ce que Madame de Mirand avait conclu de ce respect ne lui était pas échappé non plus. S'il la respecte, il l'aime donc beaucoup, avait-elle dit. Et c'était tout à fait de son avis. La conséquence me paraissait fort sensée et fort satisfaisante, de sorte qu'en ce moment, j'avais de la honte, de l'inquiétude et du plaisir. Mais ce plaisir était si doux, cette idée d'être véritablement aimé de Valville eut tant de charme, m'inspira des sentiments si désintéressés et si raisonnables, me fit penser si noblement. Enfin, le cœur est de si bonne composition quand il est content, en pareil cas, que vous allez être édifié du parti que je pris. Oui, vous allez voir une action qui prouva que Valville avait eu raison de me respecter. Je n'étais rien, je n'avais rien qui pût me faire considérer, mais à ceux qui n'ont ni rang ni richesse qui en imposent, il leur reste une âme. Et c'est beaucoup, c'est quelquefois plus que le rang et la richesse, elle peut faire face à tout. Bien voyons comment la mienne me tira d'affaire. Madame d'Orsin répliqua encore quelque chose à Madame de Mirand sur ce qu'elle venait de dire. Cette dernière se leva pour s'en aller et dit: Ben, puisqu'il dîne demain chez nous, tâchez donc de le disposer à ce mariage. Pour moi, qui ne puis me rassurer sur l'aventure en question, j'ai envie à tout hasard de mettre quelqu'un après mon fils ou après son laquais, quelqu'un qui les suive l'un ou l'autre, et qui me découvre où ils vont. Peut-être saurai-je par là quelle est la petite fille, supposé qu'il s'agisse d'elle, et il ne sera pas inutile de la connaître. Adieu, Marianne, je vous reverrai dans 2 ou 3 jours. Non, lui dis-je en laissant tomber quelques larmes. Non, madame, voilà qui est fini. Il ne faut plus me voir. Il faut m'abandonner à mon malheur. Il me suit partout, et Dieu ne veut pas que j'aie jamais de repos. Quoi, que voulez-vous dire? Me répondit-elle. Qu'avez-vous, ma fille? D'où vient que je vous abandonnerai? Ici mes pleurs coulèrent avec tant d'abondance que je restai quelque temps sans pouvoir prononcer un mot. Mais tu m'inquiètes, ma chère enfant. Pourquoi donc pleures-tu? Ajouta-t-elle en me présentant sa main, comme elle avait déjà fait quelques moments auparavant. Mais je n'osais plus lui donner la mienne. Je me reculais honteuse, et avec des paroles entrecoupées de sanglots. Hélas, madame, arrêtez, lui dis-je. Vous ne savez pas à qui vous parlez, ni à qui vous témoignez tant de bonté. Je crois que c'est moi qui suis votre ennemi, et que c'est moi qui vous cause le chagrin que vous avez. Comment, Marianne, reprit-elle étonnée, vous êtes celle que Valville a rencontrée et qu'on porta au logis? Oui, madame, c'est moi-même, lui dis-je. Je ne suis pas assez ingrate pour vous le cacher. Ce serait une trahison affreuse après tous les soins que vous avez eus pris de moi, et que vous voyez bien que je ne mérite pas, puisque c'est un malheur pour vous que je sois au monde. Et voilà pourquoi je vous dis de m'abandonner. Il n'est pas naturel que vous teniez lieu de mère à une fille orpheline que vous ne connaissez pas, pendant qu'elle vous afflige, et que même c'est pour l'avoir vue que votre fils refuse de vous obéir. Je me trouve bien confuse de voir que vous m'ayez tant aimée, pour qui devez me vouloir tant de mal, hélas. Vous y êtes bien trompée, et je vous en demande pardon. Mes pleurs continuaient. Ma bienfaitrice ne répondait point, mais elle me regardait d'un air attendri et presque la larme à l'œil elle-même. Madame, lui dit son ami en s'essuyant les yeux, en vérité, cet enfant me touche. Ce qu'elle vient de vous dire est admirable. Voilà une belle âme, un bon caractère. Madame de Mirand se taisait encore et me regardait toujours. Vous dirai-je à quoi je pense, reprit tout de suite Madame d'Orsin. Mais vous êtes le meilleur cœur du monde et le plus généreux. Mais je me mets à votre place, et après cet événement-ci, j'aimerais fort bien que vous eussiez quelque répugnance à l'avoir davantage. Il faudra peut-être que vous preniez sur vous pour lui continuer vos soins. Voulez-vous me la laisser? Je me charge d'elle en attendant que tout ceci se passe. Oh, je ne prétends pas vous l'ôter, elle y perdrait trop, et je vous la rendrai dès que le mariage de votre fils sera conclu, et que vous me la redemanderez. À ce discours, je levai les yeux sur elle d'un air humble et reconnaissant. À quoi je joignis une très humble et très légère inclination de tête. Je dis légère parce que je compris dans mon cœur que je devais la remercier avec discrétion et qu'il fallait bien paraître sensible à ses bontés, mais non pas faire penser qu'elle me consolasse, comme en effet elle ne me consolait pas. J'accompagnai le tout d'un soupir, après quoi Madame d'Orsin, reprenant la parole, dit à ma bienfaitrice, « Voyez, consultez-vous. » De grâce, un moment, répondit Madame de Mirand. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Laissez-moi auparavant m'informer d'une chose. Marianne, me dit-elle, n'avez-vous point eu de nouvelles de mon fils depuis que vous êtes ici? Hélas, madame, répondis-je, ne m'interrogez point là-dessus. Je suis si malheureuse que je ne saurais encore que des sujets de douleur à vous donner, et vous n'en serez que pas plus en colère que moi entre moi. Il est juste que vous m'ôtiez votre amitié et que vous laissiez là une fille qui vous est si contraire, mais il ne vous servira de rien de la haïr davantage, et je voudrais pouvoir m'exempter de cela. Oh, ce n'est pas que je refuse de vous dire la vérité. Je sais bien que je suis obligé de vous la dire. C'est la moindre chose que je vous dois, mais ce qui me retient, c'est la peine qu'elle vous fera, c'est la rancune que vous en prendrez contre moi et toute l'affliction que j'en aurai moi-même. Non, non, ma fille, reprit Madame de Mirand. Parlez hardiment et ne craignez rien de ma part. Valville sait-il où vous êtes? Est-il venu ici? Ce discours redoubla mes larmes. Je tirai ensuite de ma poche la lettre que j'avais reçue de Valville et que je n'avais pas décachetée, et la lui présentant d'une main tremblante. « Je le sais, lui dis-je à travers mes sanglots, comment il a découvert que je suis ici, mais voilà ce qu'il vient de me donner lui-même. » Madame de Mirand la prit en soupirant, l'ouvrit, la parcourut, et jeta les yeux sur son amie, qui fixa aussi les siens sur elle, et elles furent toutes deux assez longtemps à se regarder, sans se rien dire, il me sembla même que je les vis pleurer un peu. Et puis Madame d'Orsin, en secouant la tête, « Ah, madame, dit-elle, je vous demandais Marianne, mais je ne l'aurai pas. » Je vois bien que vous la garderez pour vous. Oui, c'est ma fille, plus que jamais, répondit ma bienfaitrice, avec un attendrissement qui ne lui permit de dire que ce peu de mots. Et sur le champ, elle me tendit une troisième fois la main, que je pris alors du mieux que je pus, et que je baisai mille fois à genoux, si attendri moi-même, que j'en étais comme suffoqué. Il se passa en même temps un moment de silence qui fut si couchant que je ne saurais encore y penser sans me sentir remué jusqu'au fond de l'âme. Ce fut Madame d'Orsin qui le rompit la première. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je l'embrasse? S'écria-t-elle. Oh, je n'ai de ma vie été si émue que je ne le suis. Je ne sais plus qui des deux j'aime le plus, ou de la mère ou de la fille. Ah, ça, Marianne, me dit Madame de Mirand, quand tous nos mouvements furent calmés. Qu'il ne vous arrive donc plus, tant que je vivrai, de dire que vous êtes orpheline, entendez-vous? Venons à mon fils. C'est sans doute Madame du Tour, cette marchande, chez qui vous demeuriez, qui lui aura dit où vous êtes. Apparemment, répondis-je, je ne lui ai pourtant pas dit à elle-même, et je l'avais garde, puisque j'ignorais le nom du couvent quand j'y suis entré. Mais l'homme dont j'ai été obligé de me servir pour faire porter mes hardes ici est de son quartier. Ce sera lui qui le lui aura appris. Et puis monsieur de Valleville, qui me fit suivre par un laquais lorsque je sortis de chez lui en fiacre, et qui a su que j'étais descendu chez madame du Tour, a sans doute interrogé cette bonne dame qui n'aura pas manqué de lui apprendre tout ce qu'elle en savait. C'est ce que j'en puis juger, car pour moi, il n'y a point de ma faute. Je n'ai contribué en rien à tout ce qui est arrivé. Et une marque de cela, c'est que depuis ce temps-là, je n'ai entendu parler de monsieur Valleville que d'aujourd'hui. Il ne m'a donné sa lettre que cet après-midi encore, n'en avait-il pas rendu que par finesse? Ne lui pas plus de lâcher ce dernier mot, que j'en sentis toute la conséquence. C'était engagé, madame du Mirand, à m'en demander l'explication, et le déguisement de Valleville était un article que j'aurais peut-être pu soustraire à sa connaissance sans blesser la sincérité dont je me piquais avec elle. Et j'étais indiscrète à force de candeur. Mais enfin, le mot était dit, et madame du Biron n'avait plus besoin que je l'explicasse. Elle savait déjà ce qu'il signifiait. Par finesse, me répondit-elle. Ah, je suis donc au fait, et voici comment. C'est qu'en sortant de carrosse dans la cour du couvent, j'ai vu par hasard un jeune homme en livrée qui descendait de ce parloir-ci. J'ai trouvé qu'il ressemblait tant à mon fils que j'en ai été frappé. J'ai même pensé vous le dire, madame. À la fin, pourtant, j'ai regardé ceci comme une chose singulière à laquelle je n'ai plus fait attention. Mais à présent, Marianne, que je sais que mon fils vous aime, et je ne doute pas qu'au lieu d'un homme qui lui ressemblait, ce ne soit lui-même que j'ai vu tantôt. N'est-il pas vrai? Hélas, madame, lui dis-je après avoir hésité un moment, à peine arrivait-il quand vous êtes venue. J'ai pris sa lettre sans la regarder, et je ne l'ai reconnue qu'à un regard qu'il m'a jeté en partant. Oh, je me suis écrié de surprise. On vous a annoncé, il s'est retiré. Du caractère dont il est, dit alors madame du Mirand en parlant à son amie. Il faut que Marianne ait fait une prodigieuse impression sur son cœur. Voyez quoi il a pu se résoudre, et quelle démarche, prendre une livrée. Oui, reprit madame d'Orsin, cette action-là conclut qu'il l'aime beaucoup assurément, et voilà une physionomie qui le conclut encore mieux. Mais ce mariage qui est presque arrêté, madame, dit ma bienfaitrice, cet engagement que j'ai pris de son propre aveu, comment s'en tirer? Jamais Valleville ne terminera. Je vous dirai plus. C'est que je serais fâché qu'il épousât cette fille, prévenue d'une aussi forte passion que celle-ci me le paraît. Oh, comment le guérir de cette passion? Mais là, en guérir, nous aurions de la peine, repartit madame d'Orsin. Mais je crois qu'il suffira de rendre cette passion raisonnable, et nous le pourrons avec le secours de mademoiselle. C'est un bonheur que nous ayons affaire à elle. Nous venons de voir un trait de caractère de son cœur qui prouve de quoi sa tendresse et sa reconnaissance la rendront capable pour une mère comme vous. Or, pour déterminer votre fils à remplir vos engagements et les siens, il ne s'agit de la part de votre fille que d'un procédé qui sera bien digne d'elle. C'est qu'il est seulement question qu'elle lui parle elle-même. Il n'y a qu'elle qui puisse lui faire entendre raison. Il vous obéirait pourtant si vous l'exigiez, j'en suis persuadé. Il vous respecte trop pour se révolter contre vous. Mais comme vous dites fort bien, vous ne voulez pas le forcer et vous pensez juste. Vous n'en feriez qu'un homme malheureux qui ne deviendrait par complaisance pour vous, qui ne se consolerait pas de l'être devenu, parce qu'il dirait toujours: je pouvais ne pas l'être, au lieu que Marianne, par mille raisons, sans réplique qu'elle saura lui dire avec douceur, qu'elle peut même paraître lui dire avec regret, en fera un homme bien convaincu qu'il l'aimerait en vain, qu'elle n'est pas en état de l'aimer, et par là lui calmera le cœur et le consolera de la nécessité où il s'est mis d'épouser la jeune personne qu'on lui a destinée, de sorte qu'alors ce sera lui qui se mariera, et non pas vous qui le marierez. Voilà ce qui m'en semble. C'est fort bien dit, reprit madame de Mirand, et votre idée est très bonne. J'y ajouterai seulement une chose. Ne serait-il pas à propos, pour achever de lui ôter toute espérance, que ma fille feignît de vouloir être religieuse, et ajouta même qu'à cause de sa situation, elle n'a point d'autre part à prendre? Oh, ce que je dis là ne signifie rien, au moins, Marianne, me dit-elle en s'interrompant. Ne croyez pas que ce soit pour vous insinuer de quitter le monde. Oh, j'en suis si éloigné qu'il faudrait que je vous visse la vocation la plus marquée et la plus invincible pour y consentir, tant j'aurais peur que ce fût simplement que votre peu de fortune ou l'inquiétude de l'avenir ou la crainte de mettre à charge qui vous y engagea. Entendez-vous, ma fille? Aussi ne vous y trompez pas. Je n'envisage ici que mon fils. Je ne prétends que vous indiquer le moyen de l'amener à mes fins et de l'aider à surmonter un amour que vous ne méritez que trop qu'il est pour vous, qui serait trop heureux d'avoir pris, et dont je serais charmé moi-même, sans les usages et les maximes du monde, qui, dans l'infortune où vous êtes, ne me permettent pas d'y acquiescer. Hélas, cependant, que vous manque-t-il? Ce n'est ni la beauté, ni les grâces, ni la vertu, ni le bel esprit, ni l'excellent cœur. Et voilà pourtant tout ce qu'il y a de plus rare, de plus précieux. Voilà les vraies richesses d'une femme dans le mariage, et vous les avez à profusion. Mais vous n'avez pas 20 000 livres de rente. On ne ferait aucune alliance en vous épousant. On ne connaît point vos parents, qui vous feraient peut-être beaucoup d'honneur. Et les hommes qui sont sots, qui pensent mal, et à qui pourtant je dois compte de mes actions là-dessus, ne pardonnent point aux disgrâces dont vous souffrez, et qu'ils appellent des défauts. La raison vous choisirait, la folie des usages vous rejette. Tout ce détail, je vous le fais par amitié, et afin que vous ne regardiez pas les secours que je vous demande contre l'amour de Valville comme un sujet d'humiliation pour vous. Eh mon Dieu, madame, ma chère mère, puisque vous m'accordez la permission de vous appeler ainsi, que vous êtes bonne et généreuse, m'écriai-je en me jetant à ses genoux, d'avoir tant d'attention, tant de ménagement pour une pauvre fille qui n'est rien et qu'une autre per que personne ne pourrait plus souffrir. Eh mon Dieu, où serais-je sans la charité que vous avez pour moi? Songez-vous que sans ma mère, j'aurais actuellement la confusion de demander ma vie à tout le monde? Et malgré cela, vous avez peur de m'humilier. Y a-t-il encore sur la terre un cœur comme le vôtre? Eh, ma fille, s'écria-t-elle à son tour court, qu'est-ce qui n'aurait pas le cœur bon avec toi, cher enfant? Tu m'enchantes. Oh, elle vous enchante à la bonne heure, dit alors Madame d'Orsin. Mais finissez toutes deux, car j'y saurais tenir, sans m'attendrisser trop. Revenons donc à ce que nous disions, reprit ma bienfaitrice. Puisque nous décidons qu'elle parlera à Valeville, attendra-t-elle qu'il revienne la voir, ou pour aller plus vite, ne vaut-il pas mieux qu'elle lui écrive de venir? Sans difficulté, dit Madame d'Orsin, qu'elle écrive. Mais je suis d'avis auparavant que nous sachions ce qu'il dit dans la lettre que vous tenez et que vous avez lue tout bas. C'est ce qui réglera ce que nous devons faire. Oui, dis-je aussi d'un air simple et naïf, il faut voir ce qu'il pense, d'autant plus que j'ai oublié de vous dire que je lui écrivis le jour que je vins ici, une heure avant que d'y entrer. Et pourquoi, Marianne? Me dit Madame de Mirand. Hélas, par nécessité, madame, répondis-je. C'est que je lui envoyais un paquet où il y avait une robe que je n'ai mise qu'une fois, du linge et quelque argent, et comme je ne voulais point garder ces vilains présents, que je ne savais point la demeure de cet homme riche qui me les avait donnés, de cet homme de considération dont je vous ai parlé, qui avait fait semblant de me mettre par pitié chez Madame Dutour, et qui avait pourtant des intentions si malhonnêtes, j'écrivis de Monsieur de Valeville, qui savait où il demeurait, pour le prier d'avoir la bonté de lui faire tenir le paquet de ma part. Et par quel hasard, dit Madame de Mirand, mon fils savait-il donc la demeure de cet homme-là? Eh, madame, vous allez encore être étonnée, répondis-je. Il le sait, parce que c'est son oncle. Quoi? Reprit-elle. Monsieur de Climal? C'est lui-même, repris-je. C'était à lui que ce bon religieux dont je vous ai parlé m'avait mené. Et ce fut chez vous que j'appris qu'il était l'oncle de Monsieur de Valeville. Parce qu'il y vint une demi-heure après qu'on m'y eût porté le jour de ma chute, et ce fut lui aussi que Monsieur de Valeville surprit l'après-midi à mes genoux, chez la marchande de linge, dans l'instant qu'il m'entretenait de son amour pour la première fois, et qu'il voulait, disait-il, me loger dès le lendemain bien loin de là, afin de me voir plus en secret, et de m'éloigner du voisinage de Monsieur de Valeville. Juste ciel! Que m'apprenez-vous? S'écria-t-elle. Quelle faiblesse dans mon frère! Madame, ajouta-t-elle à son amie et amie, au nom de Dieu, ne dites-moi ce que vous venez d'entendre. Si jamais une aventure comme celle-là venait à être sue, jugez du tort qu'elle ferait à Monsieur de Climal, qui passe pour un homme plein de vertu, et qui en effet en a beaucoup. Mais qui s'est oublié dans cette occasion-ci. Le pauvre homme, à quoi songeait-il? Alors, laissons cela. Ce n'est pas de quoi il est question. Voyons la lettre de mon fils. Elle la rouvrit. Mais, dit-elle tout de suite en s'arrêtant, il me vient un scrupule. Faisons-nous bien de la lire devant Marianne? Peut-être aime-t-elle Valeville. Il y a dans ce billet-ci beaucoup de tendresse, elle en sera touchée, et n'en aura que plus de peine à nous rendre le service que nous lui demandons. Dis-nous, ma chère enfant, n'y a-t-il point de risque? Que devons-nous croire? Aimes-tu mon fils? Il n'importe, madame, répondis-je. Cela n'empêchera pas que je lui parle comme je le dois. Il n'importe, dis-tu. Mais tu l'aimes donc, ma fille? Reprit-elle en souriant. Oui, madame, lui dis-je, c'est la vérité. J'ai pris d'abord de l'inclination pour lui, tout d'abord sans savoir que c'était de l'amour. Je n'y songeais pas. J'avais seulement du plaisir à le voir. Je le trouvais aimable, et vous savez que je n'avais point tort, car il l'est beaucoup. C'est un jeune homme si doux, si bien fait, qui vous ressemble tant. Et je vous ai aimé aussi dès que je vous ai vu. C'est la même chose. Madame d'Orsin et elle se mirent à rire là-dessus. Je ne me lasse point de l'entendre, dit la première. Oh, je ne pourrais plus passer de la voir, elle est vraiment unique. Oui, j'en conviens, repartit ma bienfaitrice. Mais je veux pourtant la quereller d'avoir dit à mon fils qu'elle l'aimait, à cause que c'est un discours indiscret. Ah, mon Dieu, madame, jamais, m'écriai-je, il n'en sait rien. Je n'en ai pas ouvert la bouche. Est-ce qu'une fille ose dire à un homme qu'elle l'aime? À une dame encore, passe, il n'y a pas de mal. Mais M. de Valville n'en a pas le moindre soupçon, à moins qu'il ne l'ait deviné et qu'il s'en douterait. Cela lui servira de rien, madame. Vous le verrez. Je vous le promets. Ne vous embarrassez point. Eh bien oui, il est aimable, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Mais qu'est-ce que cela fait? C'est tout comme s'il n'en était pas plus qu'un autre. Je vous assure, je n'y prendrai pas garde. Et je serais bien ingrate d'en agir autrement. Ah, ma chère fille, me dit madame de Miran, il te sera bien difficile de résoudre ce cœur-là à renoncer à toi. Plus je te vois, plus je désespère que tu le puisses. Essayons pourtant, et voyons ce qu'il écrit.